Voilà, nous nous retrouvons, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour cette seconde partie d'émission dans le Libre Journal de la Résistance française, qui est un hommage à Annick de Souzenel. Je rappelle, il y a 4 semaines, nous avions un enregistrement de 2017. À l'époque, c'était Adrien. Là, cette fois-ci, pour cette émission, le maître de la réalisation, c'est Jean-Edouard. Avec Adrien, nous étions allés pas loin d'Angers pour interviewer pendant une journée entière Annick de Souzenel. Il en était ressorti 6 heures d'émission, dont vous avez, il y a 4 semaines, donc entendu les 3 premières heures. Cette fois-ci, c'est une émission qui est en très léger différé, hein, donc n'essayez pas de lancer vos appels et de prendre le standard d'assaut, parce que voilà, il n'y aura personne, puisque cette émission est préalablement enregistrée il y a 3 jours, mais vraiment il n'y a pas longtemps. Et donc, envoyez vos courriels, on n'hésitera pas avec les... avec nos invités. Donc c'était en première partie Suzanne Renarda, et donc mon invité dans cette seconde partie que je vais vous présenter dans un instant. On répondra évidemment à l'ensemble de vos questionnements, observations, remarques, en tout genre. Donc Annick de Souzenel, dont je rappelle hein, qu'elle est décédée, elle nous a quittés dans sa 102e année, elle était née le 4 novembre 1922, et elle est donc décédée le 11 août 2024. 11 août 2024, donc dans sa 102e année. Avec Suzanne Renarda, on a évoqué avec elle, c'était, dont je rappelle d'ailleurs hein, son site, le Relais de Provence, dont elle est la présidente. Elle diffuse une pensée d'Annick de Souzenel. Je dirais, si on n'a pas envie tout de suite de se confronter aux ouvrages, parfois considérés comme un peu compliqués. Enfin, moi qui ai par exemple un doctorat sur Heidegger, je peux vous assurer, Annick de Souzenel, c'est quand même plus simple que Hegel ou que Heidegger. Hein. Enfin, c'est plus simple. Rien n'est simple, mais en tout cas, c'est plus. L'accès, moi, m'a semblé quand même. D'un abord qui n'était pas si qui en tout cas n'est en jamais rebutant. Après, bah, il faut lire des fois 5 fois, 10 fois, 20 fois le même ouvrage pour non pas s'en accaparer, puisque justement c'est ce qu'on disait avec Suzanne Renarda, c'est quelque chose d'extraordinaire avec elle, c'est Annick de Souzenel, c'est pas quelqu'un qui était dans le mental, elle demandait toujours l'expérience, faire l'expérience, puisqu'on ne s'accaparait pas l'avoir, la connaissance, mais on était dans l'être, on l'expérimentait. C'est comme ça, en effet, qu'on pouvait changer de niveau de conscience, passer de mort à résurrection. Enfin, on va pas revenir sur tout ce que nous nous sommes dit avec Suzanne pendant 1h30. Donc j'arrive tout de suite avec notre invité. On va passer de la personne qui vivait pratiquement avec elle à pas à l'opposé, mais à un philosophe, mais pas des moindres. En plus, il est connu sur Radio Courtoisie, hein, il est souvent reçu, c'est Bertrand Vergely. Déjà, sans plus attendre, je le salue et je lui dis merci d'être venu, de vous être rendu disponible, Bertrand.
Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Bonjour.
Bah, je pense que pour parler d'Annick de Souzenel, il eût été quand même dommage de ne pas faire appel à vous.
Et vous êtes très gentil. En tout cas, pour moi, c'est un plaisir d'évoquer... Non pas sa mémoire, parce que pour moi, ce n'est pas quelqu'un dont on peut parler au passé,
oui.
Mais pour parler de sa pensée et de sa présence vivante par-delà la vie et la mort.
On rappelle, Bertrand Vergely, votre dernier ouvrage en date. Je vous ai invité plusieurs fois sur des livres, dont ce livre sur la prière, auquel je fais référence. Il y a deux personnalités... avec lequel j'ai échangé sur la prière, c'est le frère Jean, orthodoxe aussi, et Bertrand Vergely. Son dernier livre en date, Main basse, sur la pensée, Les grandes arnaques aux éditions Salvator. C'est un moment, d'ailleurs, on pourrait peut-être commencer par vous, Bertrand Vergely, avant d'évoquer Annick de Souzenel. C'est une époque particulière pour vous, l'ancien enseignant à l'IEP, ancien enseignant aussi de l'Institut Saint-Serge, les prépas à l'Université d'Orléans. Et là, c'est un moment particulier, je crois, dans votre
vie. Oui, il y a eu la première vie qui a consisté à étudier, la deuxième a consisté à enseigner, et maintenant, c'est la liberté. Je continue d'étudier, je continue d'enseigner, mais quelque chose d'autre qui vient. Et qui se fait hors études et hors enseignement.
Ça me fait penser un peu aux trois stades, si j'ose dire, dont on a parlé avec Suzanne Anarda, d'Annick de Souzenel, avec la matrice d'eau, la matrice de feu et la matrice du crâne. On a l'impression que la liberté, c'est un peu comme le mat du tarot marseillais.
Le ciel vous entende. J'espère arriver à ce degré d'élévation et en ayant intégré les trois baptêmes.
C'est ça, les fameux trois baptêmes. Peut-être commencer, Bertrand Vergely, par la rencontre avec Annick de Souzenel, dont il est question aujourd'hui.
Mais écoutez, Annick de Souzenel est quelqu'un avec qui j'ai vécu, d'abord sans la connaître, grâce à son mari Geoffroy, qui a été à l'origine de la conversion de ma mère à l'orthodoxie. Et puis ensuite, Annick, je l'ai rencontrée après mon livre sur la souffrance en 1997. Je l'ai rencontrée en 1998. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est qu'en même temps, je rencontrais le père Philippe Dautet, qui était à l'origine de tous les séminaires qui se sont faits autour d'Annick. Et pour la première fois, moi qui vivais dans un monde résolument athée, je découvrais des gens qui pensaient comme moi. J'étais tout seul. En tant que philosophe, très mal vu parce que je disais que Dieu, la foi, c'était fondamental. Et j'ai tout d'un coup découvert des gens avec qui je pouvais échanger sur le plan de la pensée. Et alors Annick, ça a été autre chose. Annick, c'est quelqu'un qui m'a marqué par le livre d'ailleurs qu'elle m'avait offert sur le féminin de l'être. Où tout d'un coup, j'ai eu le sentiment qu'elle parlait ma langue. C'est-à-dire qu'elle était capable, en interprétant les mots grâce aux racines hébraïques, de retrouver derrière le texte un texte ultra profond et ultra brûlant qui n'existait pas dans l'enseignement, l'interprétation courante de l'Église, qu'elle soit catholique ou orthodoxe, où ça reste très politique, très moral, très social, parfaitement légitime. L'Église a un rôle social, politique, moral. Mais avec Annick, c'était autre chose. On était dans ce qu'elle appelle l'expérience ontologique. Et j'ai été sidéré par la puissance et l'efficacité de ce que ça introduisait. C'est-à-dire, ça mettait un lien entre l'expérience vivante que l'on peut avoir avec la prière, avec l'expérience de la pensée. Et il y a le moment où la pensée se faisait prière et la prière se faisait pensée. Novalis dit la philosophie est une longue pensée, une grande prière. La philosophie, c'est Nietzsche qui dit la vie est une grande pensée. Et Novalis dit la philosophie est une grande prière. Et si on comprend prière comme expérience de l'attention absolue qui permet de relier le ciel et la terre, c'est ce que m'a donné Annick. Si vous voulez. Annick, je la vois comme un immense commentaire de cette vision de la réalité qu'on trouve dans le Tao et qui finalement exprime en même temps le Christ dans la tradition chrétienne, c'est-à-dire un arbre avec le ciel, la terre et puis l'homme entre le ciel et la terre. Et je vois là l'arbre de vie, le Fils de l'homme, et je vois la récapitulation trinitaire géniale qu'il y a dans la théologie chrétienne, mais reprise d'une manière spéculative chez Annick. Et tout d'un coup, tout se mettait en place. La cohérence de la Trinité, la cohérence du Tao, la cohérence du Christ, tout ça était ensemble. Et depuis, si vous voulez, je pense toujours d'une manière trinitaire, c'est-à-dire le ciel, la terre, et puis l'homme, donc la terre, le matériel, l'homme, le personnel, et le ciel, le transcendant. C'est-à-dire le plus que terrestre, le plus qu'humain.
Parler de l'homme planté entre deux.
Voilà. Justement. Voilà. Et ça, il y a, si vous voulez, la découverte d'un schéma de pensée, mais extrêmement fécond. Et donc, nous nous sommes vus très souvent.
Je reviens juste peut-être, Bertrand, sur et après vous allez pouvoir bien sûr continuer sur cette expérience, parce que moi j'ai eu aussi ce sentiment que tout avec Annick de Souzenel, quand on commence à la lire, se met en place. Ça, c'est vraiment quelque chose.
Ouais.
C'est-à-dire que ce qui est éparse dans nos pensées, elle va réussir à le réunir. Ça, j'aimerais que, si vous pouvez le développer un
alors,
peu.
Alors, vous
parce
avez
que...
quelque chose qui est la lecture même des textes. Nous pouvons dire que tout est mystérieux au sens où tout vient d'une source de sens qui dépasse l'homme et qui lui est révélée d'une manière intuitive. Mais à partir de là, tout est cohérent. Et la caractéristique de tout l'évangile, la caractéristique de la lecture des pères, c'est que tout ce qui est dit est cohérent, vous pouvez le vérifier dans l'expérience et ça tient la route. Donc vous partez des prémices qui sont des prémices célestes et puis vous allez rentrer en vous, puis vous allez rentrer dans la terre et dans votre corps, ou vous rentrez dans votre corps et puis vous allez vers le personnel et le transcendant. Et vous avez cette cohérence. Et ce qui caractérisait Annick, c'était une mise en place, effectivement, de la pensée. Où, voilà, y a, si nous prenons par exemple le titre d'un de ses livres, « Va vers toi », là, il y a un lien de cohérence extrêmement important. Vous savez, Annick, elle avait une relation avec l'épée. Dans l'Apocalypse, on voit dans les premiers chapitres, il est dit que le Christ apparaît avec une épée qui lui sort de la bouche. Or, c'est la seule que je connaisse qui est vraiment bien méditée sur l'épée en disant que c'était les deux faces de la réalité, le visible et l'invisible. Et l'épée est ce qui tranche pour pouvoir relier. Voilà. Et donc, alors tout d'un coup, par exemple, la parole du Christ, celui qui a pris l'épée périra par l'épée, ça n'avait rien à voir au fait de punir les pécheurs, mais c'était parler ici... de l'expérience de l'épée, de la double face qui fait que l'homme qui prend l'épée va, comment dire, vous l'avez dit au début de l'émission, mourir et ressusciter.
Ah oui, voilà. Et puis parce qu'il y a, un tranchant qui vivifie, mais voilà. Il y a un tranchant qui tue.
Voilà, mais qui tue le vieux, qui tue la poussière, qui tue la mort.
Bien sûr.
Qui tue tout ce qui doit se débarrasser. Voilà. Et donc, ce que j'ai trouvé, si vous voulez, c'est une cohérence géniale. Et cette cohérence géniale, Annick la doit à Jean Kowalewski, le Monseigneur Jean, qui a été celui qui a fondé l'Église catholique orthodoxe de France, et qui est un prêtre orthodoxe complètement génial, qui a voulu retrouver les sources de l'Église indivise en revenant au rite des Gaules de Saint-Germain de Paris. Et qui a appris à Annick à lire. C'est-à-dire, quand vous lisez Jean Kowalewski, il a l'art, dans les évangiles, de prendre un mot et de voir une bibliothèque derrière un mot. Vous voyez, donc, il y a très peu de mots, mais ça suffit pour pouvoir véritablement comprendre quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ma mère quitte la Suisse, oui. Elle veut rentrer, elle veut découvrir la culture française, elle découvre la culture russe. À l'occasion bien d'un cocktail où elle rencontre des Russes, ils se revoient et elle prend, fait connaissance de Geoffroy de Souzenel, le futur mari de
Annick
de Souzenel. Et Geoffroy explique à maman que si elle veut avancer, il faut qu'elle se convertisse à l'orthodoxie. Alors, elle rencontre le père Sophronie, elle rencontre le monseigneur Antoine Blum. Et elle devient orthodoxe. Et donc, il y a ce terreau, si vous voulez, extraordinaire. Et à l'époque, nous sommes en pleine floraison de la pensée théologique orthodoxe, puisqu'il y a l'Institut Saint-Serge qui va fêter cette année prochaine son centenaire. L'Institut fondé en 1925 par Serge Bulgakov. Et... qui exprime une théologie absolument géniale. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a affaire à des penseurs qui pensent la théologie, et en pensant la théologie, ils ne la mentalisent pas, au contraire, ils lui permettent de retrouver toute sa profondeur. Voilà. Et donc, il y a ce renouveau orthodoxe qui est lié à l'Institut Saint-Serge, à l'École de Paris, où d'ailleurs ma mère va, elle assiste par exemple...
On est à quelle époque ?
On est en 1950, et ma mère arrive en 1945 à Paris. 1950-1960, il y a une ébullition intellectuelle. À l'époque, elle rencontre des intellectuels, Raymond Abellio, qui écrit La structure absolue. Ma mère tape son roman qui s'appelle Heureux les pacifiques. Et puis, il y a la revue Planète qui se crée. Il y a tout un mouvement très fervent et très heureux, avec vraiment des chercheurs de vérité. Et ouais. Annick de Souzenel apparaît au milieu de ce milieu très riche, n'est-ce pas, qui est en pleine ébullition. Ouais. Vous voyez, voilà. Et dans ce milieu intellectuel, tout d'un coup, eh bien, on ose parler du christianisme d'une manière géniale. Alors, il faut voir qu'il y a une habitude de la pensée religieuse dans le monde russe qui étonne le monde occidental. Pourquoi ? Parce que le monde occidental est très organisé. Et il n'y a pas de pensée, il y a une théologie. Mmh. Et la théologie est soigneusement encadrée par le dogme, par le magistère, par ce qu'il faut dire. Il faut bien voir que l'Église catholique a pour but de nous expliquer comment il faut interpréter les textes, ce qu'il faut lire. Derrière, c'est quand même le pape avec l'infaillibilité qui est garant de la doctrine. Tout ça permet de donner beaucoup de force et de structure à l'Église catholique. Mais il n'y a pas cette pensée russe. Il n'y a pas cette pensée
russe. Ce souffle, presque.
Ce souffle. Il y a des penseurs éminents, par exemple, comme de Lubac ou Congar, mais qui sont un petit peu sur les marges, vous voyez. Et l'Église aime bien la théologie qui est bien ordonnée. Or, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que tout d'un coup, il y a une ébullition prodigieuse. Beaucoup de gens, à l'époque, vont avoir la foi grâce à cette intelligence, en disant, voilà, si le christianisme est aussi intelligent, alors oui, j'ai envie d'y aller, je vais aller dans l'aventure chrétienne. Voilà.
Mais il y a cette ébullition, et c'est un peu, à quelques années près, le début d'une forme de déchristianisation aussi, de chute complète terrible de la fréquentation des églises
Alors,
catholiques.
Alors, il y a véritablement un tournant pour l'Église catholique, c'est-à-dire, c'est le moment où il y a Vatican II. L'Église catholique sent bien qu'il faut qu'il y ait des choses qui changent. Il y a la lutte entre le modernisme et le traditionnalisme. Finalement, c'est le modernisme qui l'emporte, avec bien évidemment ses excès, ses outrances. Il n'y a pas que ça, mais il y a aussi ça. Et qu'est-ce qui se passe ? Il y a une perte de lien entre la société française et puis le christianisme. Je crois que ce lien s'explique. Il faut qu'on retrouve complètement la saveur des textes. Il faut qu'on retrouve complètement la saveur de l'expérience spirituelle.
Oui.
Et il faut que les chrétiens, dont nous sommes et dont je suis, l'avouent. Il y a un moment, on devrait être beaucoup plus vivant qu'on ne l'est. Comme disait Nietzsche, si les chrétiens croyaient vraiment à la résurrection, ça devrait se voir sur leur visage. On devrait être ces êtres de feu dont parle Annick de Souzenel, et on n'est pas à la hauteur. Et le monde a soif, et on devrait pouvoir davantage étancher sa soif, avoir une intelligence, et on ne l'a pas. Sauf que Annick de Souzenel et d'autres, le père Kowalewski, correspondent à ce moment où ce que le monde cherche, ce dont il a soif, ils sont en train de le fabriquer. C'est-à-dire Jean Kowalewski, Annick de Souzenel font partie de ceux qui préparent l'Église de demain.
Ah oui.
Et qui est une Église de pointe, avec une haute intelligence. Et c'est très intéressant, la mise en relation des plus hautes recherches scientifiques en mathématiques, physique, astronomie, avec en même temps les énoncés théologiques. Et tout d'un coup, si vous voulez, il faut, si vous voulez, où le christianisme redevient génial, ce qu'il a toujours été, ce qu'il est fondamentalement, ou alors il meurt. Et quand on n'est pas génial, on meurt, et c'est ce qui est arrivé. Mais quand la parole christique, plus que chrétienne, devient génial, alors qu'est-ce qui se passe ? Mais y a les gens accourent. Et c'est ce qu'on voit. Je suis allé dire au revoir à Annick jusqu'avant qu'elle meure.
Oui.
Et puis elle était dans un demi-sommeil dans son EHPAD. Et je lui ai dit, Annick, merci. Et regarde ton œuvre, tu peux être fier. parce qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui te disent merci, merci pour tout ce que tu as fait. Tu as redonné une espérance énorme à des gens. Et simplement, tout simplement, vous savez, le nombre de fois où on m'a dit « Ah bon, mais c'est ça, l'évangile, alors l'épée, ça veut dire ça. Et pourquoi est-ce qu'on ne me l'a pas dit ?» Vous voyez, comme si on m'avait volé, vous voyez, le vol de la pensée. Pourquoi est-ce qu'on ne me l'a pas dit ? Ben, je dis, on n'a pas dit parce que y a le poids de l'Église institutionnelle, parce que les prêtres n'osent pas penser par eux-mêmes, parce qu'ils ont peur d'être pris par leur hiérarchie s'ils posent, voilà, s'ils pensent par eux-mêmes. Et tout d'un coup, y a une parole incroyablement libre et profonde qui naît, et c'est ce que le monde attend. Hein. Alors, il faut bien savoir que il faut accepter que cette parole vienne de l'esprit et que rien ne peut l'encadrer. Souvenons-nous de la parole du Christ à Nicodème, le vent souffle où il veut, nul ne sait d'où il vient, nul ne sait où il va. Donc il faut accepter qu'il y ait l'institution Église qui est utile, qui y a besoin pour des raisons sociales, politiques, morales, d'encadrement, mais il faut accepter que ce qui vient de l'esprit est totalement inattendu et nous dépasse tous.
On pourrait peut-être revenir, Bertrand Hergély, à ce moment-là des échanges, sur justement la rencontre, parce que vous aviez commencé à l'évoquer avec Annick de Souzenay.
Alors, il y a eu des rencontres avec Annick, c'est-à-dire on s'est vu, on s'est téléphoné, et puis elle a voulu que je vienne dans son institut. Et puis, il y a eu des moments de rencontre tout à fait extraordinaires, parce que Annick pensait que j'étais quelqu'un d'important, étant donné que j'étais agrégé de philosophie, que je reconnaissais sa pensée. Donc, elle avait beaucoup de gratitude envers moi, et donc elle m'a fait rentrer dans fait venir à Sainte-Croix, qui est une communauté dirigée par le père Philippe Dautet, remarquable communauté en Dordogne. Une autre communauté qui se trouve à Béthanie, dans l'est de la France, près de Metz, qui est dirigée par le père Pascal Sauvage. Et puis, on se parlait de temps à autre au téléphone. Elle m'a fait venir dans son institut d'anthropologie spirituelle, qui a été fondé à Angers, mais dont les sessions actuellement se déroulent à Vendôme. Et qui est remarquablement organisé. Donc, c'est un institut d'anthropologie où on étudie les grandes traditions spirituelles. Donc, bien sûr, il y a le christianisme, mais il y a la Grèce que j'enseigne. Et puis, il y a l'hindouisme, il y a le bouddhisme, il y a l'islam, il y a le judaïsme. Parfois, il y a la pensée africaine. Et donc, l'idée d'Annick, c'est que le Christ est partout. Et qu'il est partout dans l'expérience spirituelle qui est à la fois divino-humaine. Bon. Et donc, j'ai la chance de venir dans cet institut et je trouve ça très, très bien, cet institut. Il y a des enseignements pendant... Donc, ça commence un jeudi, ça se termine un dimanche, mais il y a 2 jours pleins d'enseignements avec 4 heures d'enseignement par jour, plus des ateliers où il y a toujours une application sur le corps de ce qui se fait, donc de la danse, du modelage. Et quelque chose de très riche, de très riche pour moi qui enseigne, mais je crois aussi pour les étudiants. Et attention, les étudiants qui viennent là, c'est des gens de haute qualité, c'est-à-dire sont des gens très pointus dans leur domaine, vie professionnelle, et qui associent la recherche spirituelle à une vie spirituelle avec des responsabilités très importantes. Donc ça, c'est très, très bien. Mais il y a eu quelque chose de magnifique. Il y a quelques années de cela, il y a une dizaine d'années de cela, Annick a organisé un séminaire à l'île aux Moines.
Ah oui.
Et elle m'a invité à parler avec elle.
Dans le golfe du Morbihan.
Nous étions deux à parler pendant 2 jours.
C'était quand ?
Il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années. Et vous voyez, une espèce de. Donc il y avait 150 personnes et on a parlé tous les deux. Et bon, c'est une reconnaissance merveilleuse de sa part, vous voyez. Et donc, Mais si vous voulez, je crois avoir compris certaines choses de la pensée d'Annick et de pouvoir le traduire sur un plan philosophique.
Alors, on va y revenir sur à la fois l'orthodoxie, ce qu'elle apporte à l'orthodoxie, et puis à la philosophie. Voilà. Vous disiez les convergences avec la physique quantique, la physique relativiste. Oui. On pourrait peut-être en dire quelques mots, parce qu'on n'en a pas du tout parlé avec Suzanne Renard.
Oui, alors, si on prend, par exemple, la physique quantique... on a un mode de pensée christique à travers la physique quantique. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la physique quantique ? Réponse, personne ne sait.
Non, ça, personne. Voilà. Personne ne sait. Et ceux qui travaillent dessus,
voilà,
ça même
personne
pas
ne sait. Pourquoi personne ne sait ? Parce que la physique quantique part, en ce qui concerne la matière, de la polarité qui peut y avoir entre l'onde et le corpuscule pour aller au-delà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que la lumière, la matière est lumière. La lumière est à la fois matérielle et immatérielle. Elle est la coïncidence fulgurante entre le matériel et l'immatériel pour aller au-delà vers quelque chose qui est indescriptible, qui est une sorte de déflagration lumineuse. Voilà, c'est ça que ça veut. Donc, tout le but, c'est d'arriver à un éclair, à ce qu'on peut appeler le feu, dans Alliance de feu, à une déflagration, c'est-à-dire à cet état de la réalité qui correspond à la création, où la vie arrive simultanément de tous les points en même temps. Voilà. Imaginez que tout d'un coup, la création apparaisse, elle n'apparaît pas ici en face de vous, elle apparaît de partout, avec une puissance indescriptible qui dévaste tout. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on parle du Christ, il faut en parler comme ça. Il faut arrêter ces discours disant que le Christ est gentil, que c'est Jésus, que c'est mon pote, que c'est le petit Jésus qui est plein de douceur, que c'est un agneau. La vérité, et j'étais d'accord avec Annick, faites attention, le Christ, c'est du feu.
Hein.
Et derrière quelque chose qui est bien évidemment est plein d'amour et tout, il y a beaucoup de fermeté, mais ce n'est pas de fermeté au sens de dureté, c'est que c'est incroyable ce qu'il est venu annoncer. Je crois qu'on... Seul Saint Jean Chrysostome résume bien ce que veut dire le Christ quand il dit dans ses homélies sur l'incompréhensibilité de Dieu que l'immanence soit l'immanence, on peut le comprendre, que la transcendance soit transcendance, on peut le comprendre, mais que la transcendance soit immanente, c'est incompréhensible.
Ben oui.
Pour ça que ça me fait doucement rire quand j'entends nos chers intellectuels athées expliquer qu'ils veulent une transcendance immanente. Je crois qu'ils n'ont pas très très bien compris. Je crois que si vous voulez une transcendance immanente, vous devez aller sur une déflagration. Or, une transcendance immanente, ça n'a rien à voir avec la religion des droits de l'homme. Vous comprenez ? Luc Ferry dit « Le sens de la vie, c'est l'homme. C'est, et il veut fabriquer... » une religion qui est la religion des droits de l'homme, et en disant la transcendance immanente, c'est la religion des droits de l'homme. Sartre, la même chose. La transcendance immanente, c'est la responsabilité. C'est absolument pas ça. Il manque une chose à ses pensées, par ailleurs très estimable, la responsabilité, j'ai rien contre. Les droits de l'homme pour lutter contre la torture, il en faut. Simplement, il faut bien comprendre que si vous voulez aller dans le sens de la transcendance immanente, il faut aller dans le mode de pensée quantique. Et dans le mode de pensée quantique, il faut passer vers quelque chose qui est une déflagration. Voilà. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau, alors ça veut dire quoi, vivre ce niveau ? Vivre ce niveau veut dire que vous rentrez dans une attitude de totale humilité et que vous acceptez que tout ce que vous allez dire va vous être révélé, dit. Et donc, c'est des choses éblouissantes, inattendues qui arrivent. Voilà. Là, on y est. Vous voyez. Alors, Annick nous prépare à cette vision. Merci. Et c'était intéressant parce qu'elle avait des dialogues avec les savants, avec des physiciens, des biologistes, avec des mathématiciens, avec des neurophysiologistes et tout. Et elle disait, c'est quand même extraordinaire. Je découvre des choses qui sont dites dans la Bible, dans les évangiles, mais aussi dans les sciences, vous voyez ? Et on se retrouve là dans ce que Michel Serres appelait la traduction, c'est-à-dire la caractéristique de la rationalité, c'est que quand elle apparaît simultanément dans plusieurs domaines. Ça a été très bien montré par Michel Serres, tout d'un coup, ce qui se passe en physique se passe en anthropologie, se passe en chimie, se passe en histoire, et on s'aperçoit que tout d'un coup, au même moment, il y a la même structure épistémique qui, d'une manière transversale, se communique à travers différents champs de savoir. Ben, c'est exactement ça. Donc, Annick...
Et selon le champ de savoir, on va dire que ça va émerger plus ou moins vite.
Voilà.
Dit, hein.
Mais tout d'un coup, il y avait des convergences et des convergences qui, bien évidemment, nous plongent dans un état de ravissement. Vous voyez,
oui.
C'est-à-dire, c'est un état de contemplation, d'émerveillement, de grâce, en disant à un moment que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu as tout fait avec sagesse. Voilà. Donc il y a eu cet aspect très important. Et Annick, toute sa vie, a été très attentive à la science. Elle disait volontiers d'elle-même que sa formation avait été mathématique.
Hein, oui.
Et elle aimait les mathématiques et elle aimait les sciences. Et les sciences, à partir du moment où on les voit en général comme des magnifiques métaphores poétiques de ce qui peut se passer sur un plan mystique, ben on s'aperçoit que ça va ensemble. C'est-à-dire, on résout le problème ici très mal posé de foi et savoir. Est-ce que c'est la foi qui doit dominer le savoir? Est-ce que c'est le savoir qui doit dominer la foi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans la réalité, il n'y a pas la foi supérieure au savoir ou le savoir supérieur
à la foi.
On ne sait plus où on est.
Oui.
Vous voyez,
mais
parce que tout arrive ensemble. Tout ce qui se dit dans la foi se dit dans le savoir. Tout ce qui se dit dans le savoir se dit dans la foi. Tout. Et alors là, on est passé dans autre chose. Et ça, vous voyez,
on est à nouveau dans la déflagration.
Là, on est dans la déflagration. C'est-à-dire que on va au-delà des limites et ça nous met en état d'émerveillement et d'humilité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est important? C'est pas qu'il y ait une ivresse de l'intelligence, mais qu'il y ait un changement du cœur. Qui, tout d'un coup, nous fasse rentrer dans le totalement vivant. Voilà.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Bah, le totalement vivant, c'est un état intérieur qui est exactement l'état où, quand vous êtes humble, vous devenez totalement présent à ce qui est et à vous-même. Et vous vivez, qu'est-ce que veut dire être présent? Je me sens tout petit devant l'immense. Et plus je me sens petit, plus je vis l'immense. Et je vis une coïncidence entre l'immense et le petit. C'est-à-dire, c'est exactement ce qui est dit dans le grain de Senevé, où il ne s'agissait pas du tout de nous faire quelques paraboles, quelques commentaires un petit peu moralisateurs sur le fait de ne pas être orgueilleux, petit et tout. Ce n'est pas ça. C'est un état quantique qui est mis en place où le plus petit et le plus grand coïncident dans une expérience éblouissante qui est celle du royaume. Parce que quand on est dans le royaume, à un moment, c'est une réaction en chaîne, ça explose de partout.
Et puis de la source, du haïm.
La source, voilà.
À la fois source, regard.
Voilà. Donc, il y a cette expérience tout à fait extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Annick souvent disait, mais c'est absolument passionnant ce qui se passe en physique. Se passe exactement dans le soufisme. Et alors, tout d'un coup, par exemple, elle aimait beaucoup la pensée soufie ou la kabbale. Je dirais que parce qu'elle était orthodoxe, elle exprimait ce qui se passait chez les pères dans l'orthodoxie par la kabbale et le soufisme pour parler de la physique quantique.
Est-ce qu'on pourrait développer ça un petit peu, justement, Bertrand Bergelli? Parce que qu'est-ce qu'elle apporte, avant de parler de ce qu'elle apporte à la philosophie,
à l'orthodoxie? Ce qu'elle apporte,
justement,
c'est la traduction. C'est exactement, finalement, une digne disciple de Michel Serres qui dit « la rationalité, c'est la traduction, c'est la transversalité ». C'est ce que Basarab Niscolescu, un ami physicien et roumain orthodoxe merveilleux, voulait apporter dans les sciences. Hein. Il a failli être prix Nobel pour ça, mais ça ne s'est pas concrétisé. Peut-être que ça va se concrétiser. Malheureusement, il est très malade actuellement. Et c'est dommage. Mais quand on est dans cet état, qui est un état de conscience et de pensée, la pensée traverse tout. Et on s'aperçoit qu'à un moment, elle arrive au rêve hegelien de l'encyclopédie, c'est-à-dire la communication simultanée de tous les sens sur tous les plans de réalité. Tout ce qui se passe dans la matière se passe dans l'homme, qui se passe dans le céleste et qui se passe dans les mathématiques, dans les lettres, dans la physique, dans la biologie, dans la chimie, tout. Et tout d'un coup, il y a quelque chose d'invraisemblable où tout est donné en même temps. Voilà. Et là, et ça vaut également pour le champ religieux sans qu'il y ait de syncrétisme. Ça n'empêche pas. Moi, ça ne m'empêche pas d'être orthodoxe. Et je n'ai pas du tout envie de rassembler tout. Non, l'orthodoxie, c'est l'orthodoxie. Et ce qu'elle dit est spécifique. Mais au moment où on est orthodoxe, eh bien, on rencontre simultanément eh bien, la Kabbale, le soufisme, l'hindouisme, les grands maîtres tibétains. Ça se passe en même temps.
Il y a la Kabbale en particulier chez Annick de Souzenel. Hein.
Oui.
On pourrait dire que
oui.
Dans les grands livres d'Annick de Souzenel, il y a certes le symbolisme du corps humain,
bien sûr.
Mais il y a aussi cette alliance de soi, ta main et deux, et
bien sûr.
Qui n'est que de...
Bien
sûr. Que du texte.
Bien
de...
sûr. Et là, on rejoint la plus haute intellectualité.
Certes.
On rejoint le rêve de l'université fondée par Jean de Sorbonne au Moyen-Âge et qui est de vouloir faire la synthèse de toutes les sciences. Mais pour ça, il faut créer un état intérieur mystique. C'est-à-dire, on n'y va pas par le mental. Ce sont des choses qui nous sont révélées, voilà. Données par en haut. Et à un moment, permettre de faire cette propagation, vous voyez, lumineuse. Voilà. Et là, il faut donc qu'il y ait une réunion. C'était ce que voulait faire le colloque de Cordoue qui avait été mis en place par Michel Cazenave, et la réconciliation entre foi et savoir, entre science et spiritualité. Et la science et la spiritualité n'ont jamais été séparées.
Mmh.
C'est complètement artificiel que de vouloir... Je pense toujours que la foi est la plus grande science qui soit, dans la mesure où c'est l'ouverture au plus haut degré de réalité qui soit. Alors, pour aller là-dedans, il faut un don total de soi-même, et qui est l'état mystique spirituel par excellence. Je suis allé vérifier ça en allant 35 fois au Mont Athos,
oui.
en voyant ce que pouvait donner l'expérience spirituelle. On finit par comprendre, c'est vraiment l'expérience de Maître Eckhart, de l'homme noble, c'est-à-dire l'homme un dans l'un avec l'un, en un éternellement un. Un, c'est-à-dire on est rassemblé. J'en discutais hier, le moine n'est pas un homme tout seul, c'est un homme un.
Un.
Donc, ce n'est pas celui qui va dans un monastère. Ce
n'est pas la solitude. Hein.
Ah, voilà. Et l'unité, là où il y a un, il y a le monachisme bien compris, qui est le rassemblement. Le rassemblement qui fait, je découvre l'unique en moi et je vois l'unique apparaître simultanément partout. Alors là, on commence à être dans des expériences, vous voyez, de pensée et de haute pensée, puisqu'on me demande ce que j'ai fait. J'ai enseigné à Saint-Serge pendant 28 ans la théologie morale.
Oui.
Et la théologie morale, je l'appelle la haute connaissance. J'ai consacré un ouvrage qui s'appelle « Voyage en haute connaissance » sur l'enseignement du Christ, un enseignement qui est la gnose au sens noble du terme.
Mais au sens noble, parce qu'il y a toujours ces contentieux, la Kabbale, le gnosticisme.
Oui, en disant tout ça, c'est n'importe quoi.
C'est ça.
C'est absolument pas n'importe quoi. Mais malheureusement, comme toujours, ça a tellement de valeur que ça a été volé. Ça a été volé, usurpé par des bandits qui s'en sont servis comme arme de séduction.
Certes.
Alors que derrière, c'est de la haute méditation.
Mais voilà.
Vous voyez, voilà. Donc, Annick de Souzel est au cœur de tout ça. Elle baigne là-dedans,
oui.
Vous voyez. Et donc, il y a... donc, j'ai grandi et j'ai vu avec ça. Et puis, alors après, il y a eu ce dialogue avec elle qui était... Bon, le but, c'était le développement de son œuvre. Et à un moment, comment vous dire, la meilleure manière de dialoguer, c'est qu'elle me disait « Maintenant, va ton chemin. » Va, avance. Et
qui est un va vers toi aussi, évidemment.
Oui. Donc, voilà. Et
On va passer, parce qu'il y a tellement de choses qui sont dites là, depuis le début de cette seconde partie dans ce livre journal de la Résistance française, qui est un hommage à Annick de Souzenel. On va passer un très court bobino. Je regarde Jean-Édouard et
d'accord.
On revient tout de suite après.
Très bien.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans ce libre journal de la Résistance française, un hommage à Annick de Souzenel qui nous a quittés durant l'été. Elle était entrée dans sa 102e année d'existence et elle est aujourd'hui certainement là où beaucoup de ceux qui l'aimaient imaginent là où elle peut être. Annick de Souzenel, c'est beaucoup de livres et puis de toute façon c'est une pensée transversale. En effet, avec Bertrand Vergely qui dans cette seconde partie nous évoquons, ça va de la physique quantique à la foi orthodoxe en passant par la prière, l'émerveillement et puis toutes les sciences. Donc je pense Bertrand dans cette deuxième partie de la seconde partie continue à évoquer l'apport d'Annick de Souzenel à l'orthodoxie avant oui. D'évoquer le sujet qui en plus vous, philosophe, est essentiel, c'est-à-dire le lien entre Annick de Souzenel et la philosophie.
Alors, effectivement, je crois qu'il est très important de penser et de bien dire que Annick de Souzenel est orthodoxe. Je l'ai entendu dire plusieurs fois, on lui demandait « Mais pourquoi est-ce que vous êtes orthodoxe ?» Et elle avait répondu « Je suis orthodoxe parce qu'il n'y a pas mieux.
» Ben voilà, au moins c'est dit.
Voilà, alors... Pourquoi est-ce qu'elle est orthodoxe? Elle est orthodoxe parce que elle est comme tout le monde, elle a grandi dans le monde catholique. Et à un moment, il y a une déception. Il y a une déception, pourquoi? Ben, c'est le revers de la médaille de l'Église catholique. L'Église catholique est admirablement organisée. Et il faut lui rendre ce qui lui revient. Elle a cette organisation, ça se voit très bien dans les monastères, dans la beauté des églises, dans la manière dont toute l'église s'est organisée. Il faut bien comprendre que l'église catholique, c'est très, très, très intelligent, très organisé, très, très, très bien faite. Et en particulier, on voit cette intelligence chez les jésuites et la manière tout à fait étonnante qu'ils ont eue et qu'ils ont encore de bâtir l'éducation. Dans les 10 meilleurs lycées, en France, il y a 10 lycées catholiques. Mmh. Et puis ensuite arrivent ceux qu'on connaît.
Et de jésuites, donc.
Et tout. Voilà. Et donc, c'est très remarquable. Mais, il y a quelque chose qui manque, c'est la saveur de la liberté individuelle. Et parce que tout est très encadré. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout d'un coup, il y a la découverte dans l'Église orthodoxe d'une liberté. Alors, d'où ça vient, cette liberté? Vous avez toute l'expérience de la Russie au XIXe siècle, la rencontre entre la Russie et puis d'autre part l'Europe, oui, à travers les intellectuels qui vont aller en Russie et qui font naître peu à peu la pensée religieuse. La pensée religieuse, elle est admirablement résumée par Berdiaïev.
Oui, j'allais parler de Berdiaïev.
Et Annick disait, elle se reconnaissait en Berdiaïev. Et il faut bien voir que quelqu'un comme Henri Corbin, un grand spécialiste de l'islam iranien, également dit que tout ce qu'on trouve dans le soufisme se trouve résumé par le moine byzantin et d'autre part Berdiaïev. C'est-à-dire, la pensée d'Henri Corbin, c'est de dire, voilà, l'homme, quand il a bien compris, ben, il est dans la position du Tao entre ciel et terre, mmh, et il décrit par l'imaginal d'Henri Corbin la procession céleste qui descend du ciel sur la terre pour aller de la terre vers le ciel. Et là, on a tout d'un coup la découverte, si vous voulez, de quelque chose d'extraordinaire. L'homme a le pouvoir d'être un médiateur pour pouvoir incarner les choses les plus ineffables et d'autre part transcender les choses les plus matérielles et les plus concrètes. Bien. Alors, ça donne quoi? Ben, ça donne le fait que les penseurs orthodoxes fuient la persécution en Russie, oui, viennent en France et vont féconder, comme Jean Kovalevski, la culture française, pour lui permettre de retrouver les sources authentiques de son christianisme. Voilà. Alors, il y a un certain nombre de penseurs remarquables. À l'époque, par exemple, il y a quelqu'un que m'avait fait lire Geoffroy de Souzenel, Marcel Jousse, un jésuite génial qui refait toute la culture araméenne du Christ et qui retrouve avec une fraîcheur extraordinaire le souffle originel de la parole. Par là même, si vous voulez, on s'aperçoit qu'il y a tout un enseignement qui réalise le rêve de Nietzsche, sortir du dieu moral pour retrouver le dieu divin,
oui.
Hein, tel que le dit Camus dans L'homme révolté. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout d'un coup, il y a cette découverte de l'orthodoxie avec quelque chose d'extrêmement vivant, qui est l'Église catholique orthodoxe de France,
oui.
Qui n'est pas reconnue par l'Église orthodoxe officielle,
non.
Parce qu'elle n'est pas jugée canonique. Il n'empêche que c'est un foyer de vie intellectuelle intense et de spiritualité intense.
De liberté.
Et de liberté d'esprit et de grande intelligence. Et Annick est dedans. Et je crois que c'est ce que j'ai dit dans l'hommage.
Oui.
Voilà. C'est-à-dire que l'orthodoxie, c'est la juste louange. Et je crois
la juste louange.
La juste louange. Et qu'est-ce que veut dire la juste louange? La juste louange veut dire qu'à un certain moment, quand on est devant une véritable parole, on ne peut plus la parler, on ne peut que la chanter et la danser. D'où, si vous voulez, quand elle écrit Alliance de Feu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, écoutez, ce que j'écris n'est pas une écriture, c'est une danse. C'est une danse. Et vous lisez Alliance de Feu, je me disais, mais comment est-ce qu'on a pu écrire Alliance de Feu et comment est-ce qu'on a pu l'éditer? Parce que c'est d'une complication énorme.
Oui, avec les deux, avec, sur une même page, vous avez
l'approfondissement du texte, avec en même temps en hébreu, ça change tout le temps d'écriture, ça change tout le temps de pagination. Et Annick décrit une danse.
Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle dit? Mais cette danse, c'est effectivement celle dont parle la pensée indienne quand elle dit que l'univers est une danse cosmique. Vous voyez? Et il y a eu un moment où il y avait des physiciens qui étaient très intéressés par la vision que l'on retrouvait dans l'hindouisme. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette idée de danse cosmique et on avait le sentiment qu'on était en train de décrire ce qui se passait véritablement dans l'univers. On ne pouvait pas mieux l'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'il y a quand on lit Annick? Quand on lit Annick, il y a l'idée que l'orthodoxie dit juste quand elle ne propose pas une parole mentale, mais elle nous propose une jubilation de la parole. Et Annick se dit, mais cette jubilation de la parole, je vais la traduire, je dois la traduire. Il faut retraduire, repenser la Bible et les évangiles à la faveur de cette jubilation, c'est-à-dire d'une noce. Hein. Et par là même, de retrouver, il faut dire, les sources de l'érotisme sacré que l'Occident a complètement perdu, parce qu'il y a un problème mais monumental dans notre monde qui n'est pas résolu, c'est le problème de la sexualité.
Ouais.
Et le fait que la sexualité n'est pas du tout vécue d'une manière initiatique et d'une manière, je dirais, comme expérience initiatique et de manière sacrée, mais d'une manière totalement anarchique, mercantiliste. Et puis, et on le voit dans le chaos dans lequel on est. C'est-à-dire qu'on vit un véritable chaos sexuel parce que les êtres, les hommes, les femmes, sont à la recherche de leur initiation sacrée et n'arrivent pas à la trouver. Alors, ils se débrouillent comme ils peuvent.
On a pu le voir cet été avec les cérémonies des Jeux Olympiques.
Hein, alors, on a pu voir à un moment, c'est-à-dire que tout d'un coup, si vous voulez, vous avez un dérapage et vous avez actuellement, tous les problèmes sociétaux qui sont posés viennent du quoi? Comme les problèmes du féminisme, de la relation incroyablement profonde entre le féminin et le masculin, qui a été massacrée et qui n'existe plus. Voilà. Et donc, il y avait chez Annick l'idée de dire il faut retrouver cette jubilation.
Oui.
Et si on retrouve cette jubilation, on retrouve les sources de l'érotisme sacré, qui fait tant défaut à la culture occidentale moderne et que la culture moderne recherche de tout son être en souffrant. Donc actuellement, on voit l'énorme problème entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas simplement par des droits que les choses vont se résoudre. Bien sûr, je suis pour que les femmes aient des droits, mais ce n'est pas le problème. Mmh. On parle par exemple de l'avortement, mais l'avortement est un échec. C'est tragique. Et je pense que je ne veux pas du tout mettre les femmes en prison, celles qui pratiquent l'avortement ou celles qui avortent, mais simplement, je ne vais pas me réjouir en disant c'est une énorme conquête. C'est un drame de conquérir la liberté sur ce mode, oui. Parce qu'il y a quelque chose qui est meurtrier à l'intérieur de tout ça, meurtrier pour la femme, meurtrier pour tout le monde. Donc, alors, qu'est-ce qui est intéressant avec Annick, c'est que Annick nous permet de mais nous donne des clés pour répondre à la question sexuelle, à la question du féminisme, à la question de l'identité des générales. C'est pas du tout au niveau où on se situe. Il faut retrouver les sources célestes de la juste louange de la vie comme danse pour retrouver un moment la matrice, on pourrait dire, de la sexualité sacrée, mais de la parole en même temps inspirée et de l'expérience initiatique profonde permettant d'aller vers son accomplissement. Donc, je crois qu'il y a eu une très, très profonde réflexion de Annick sur la parole religieuse, la noce qui est à la base de cette parole, la danse, et d'autre part, le chant qu'il y a derrière cette parole. L'homme et la femme, l'érotisme entre l'homme et la femme, et le problème de la condition des femmes aujourd'hui, la violence qu'il y a à l'intérieur des couples entre l'homme et la femme. Voilà, c'est tout ça. Et on peut dire qu'à un moment, si vous voulez, elle a la clé de ce que recherche le féminisme aujourd'hui, c'est-à-dire un changement de regard. Voilà, on dit, voilà, il faut absolument changer le regard si on veut résoudre le problème entre l'homme et la femme. Alors, changer le regard, ça n'est pas conditionner les êtres humains par la force, comme on peut le faire en disant, on va leur coller des images qui vont les conditionner et comme ça, ils penseront bien. C'est-à-dire, on fait une dictature. Hein. Vous avez, par exemple, une école en Norvège, on s'est dit, pour supprimer les problèmes qu'il y a entre l'homme et la femme, on va habiller tous les petits garçons et toutes les petites filles de la même manière, comme ça il n'y aura plus de différence entre l'homme et la femme, comme ça il n'y aura plus de tentateurs, on sera tous des hommes et des femmes à la fois. Bah, c'est pas vrai.
Regard, oui.
C'est pas vrai. Voilà. Mais ça, c'est du malheur, si vous voulez. Quand on est là-dedans, quand on est dans la danse, c'est du malheur, c'est de la tristesse, c'est de l'ignorance. Et qu'est-ce qui est intéressant aussi pour nous, c'est de dire que Annick de Souzenel, quand elle pense la Bible, quand elle pense les évangiles, elle pense l'homme, la femme, le couple fondamental, l'érotisme qu'il y a derrière. Et qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut libérer l'érotisme et pour ça les sources sacrées et initiatiques de l'érotisme. C'est-à-dire que si nous retrouvons la jubilation, et la jubilation céleste, c'est de dire, vous savez, pour qu'il y ait épouse, époux, il faut qu'il y ait le gardien de l'époux et de l'époux qui couche devant la porte de l'époux et de l'époux et qui garde le secret de la chambre nuptiale. Et donc, ça veut dire qu'il nous faut quelque chose qui nous permette de rentrer dans le secret et qui garde le secret pour ce que ensuite la noce puisse avoir lieu et par là même retrouver à travers l'érotisme sacré ce qui permettait de réconcilier l'homme et la femme. C'était la fin du deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui cite Marx, et Marx voyait comme réconciliation entre l'homme et la femme l'avènement du socialisme. Mais ce n'est pas simplement l'avènement du socialisme, c'est pas, vous savez, quelqu'un appelait le Rabbi Karl, il disait Karl Marx était un rabbin, donc Rabbi Karl, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il n'est pas comme Rabbi Sigmund, vous voyez, c'est des rabbins et tout qui essayent, qui sont dans l'exégèse. Alors, ils ont bien vu quoi? Qu'il y a quelque chose dans la socialité qui doit se restaurer pour pouvoir libérer l'image. Mais qu'est-ce qu'il faut restaurer? Il faut restaurer la communion. Et qu'est-ce que c'est que la communion? La communion, elle a lieu, bien évidemment, dans la liturgie chrétienne, magnifiquement, à la fin où tout va vers la communion. Mais la communion, c'est retrouver la communion sacrée des corps et des âmes, vous voyez? Et alors ça, je dis que la caractéristique d'Annick, c'est avoir travaillé là-dessus.
Ouais.
Et c'est là où tout d'un coup, on voit son orthodoxie. Dans son orthodoxie, il y a quelque chose qui résonnait dans la louange, et dans la louange, il y a quelque chose qui résonnait de l'ordre de la noce.
Ouais.
Vous voyez?
Bien sûr.
Et ça, c'est absolument passionnant, vous voyez? Et ce n'est pas fini de nous passionner.
Et vous revenez là sur finalement le premier ouvrage qu'elle vous a apporté, qui est le féminin intérieur. Hein.
Voilà, le féminin intérieur. Et puis ensuite, alors ce qui se passe aussi, c'est l'importance de la noce. Et ça a toujours été rappelé. D'ailleurs, dans l'orthodoxie que je vis, il est toujours dit que l'orthodoxie dit qu'elle ne connaît que des hommes mariés. C'est-à-dire que dans un mariage, dans une unité fondamentale. Et voilà, donc ça, c'est le rapport de d'Annick à l'orthodoxie. Mmh. Et on voit que ce rapport qu'elle a à l'orthodoxie, ce n'est pas un rapport au religieux, c'est un rapport à l'homme et à la femme.
Dernière partie de cet entretien avec Bertrand Vergely, philosophe. On peut rappeler, on rappelle quand même, on fait un peu de publicité, main basse sur la pensée, les grandes arnaques aux éditions Salvator. C'est son dernier ouvrage, pour ceux qui veulent approfondir, cette fois-ci Bertrand Vergely. Vous êtes philosophe, donc c'est peut-être le moment aussi d'échanger sur ce qu'apporte Annick de Souzenel aussi à la philosophie.
Alors si vous voulez, actuellement je suis en train de faire un cours au Mardi de la philo sur l'orthodoxie je me suis dit comment enseigner l'orthodoxie avec la vision philosophique tout en restant philosophe, donc comment relier les choses. Et alors je me suis dit la seule manière, c'est pas de parler de l'orthodoxie, mais c'est de parler de la signification profonde de l'orthodoxie, c'est de présenter un autre Dieu, un autre homme, une autre morale, une autre religion, une autre vie et une autre pensée. Mmh. Donc, c'est-à-dire, c'est totalement nouveau. Et donc, ça veut dire quoi ? On peut parler du religieux en philosophie à partir du moment où on en parle d'une manière totalement nouvelle. Mmh. Pourquoi le religieux se casse la figure en philosophie ? Mmh. Parce qu'on en parle d'une manière vieille. Et on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des vieilles outres. On ne peut pas, il ne faut pas mettre des pièces neuves à des habits qui sont neufs, qui sont vieux.
Ça va tout arracher, tout déchirer.
C'est-à-dire que le religieux dans lequel on est, il y a deux jours j'étais à Saint-Irénée pour la messe, la paniquite pour Annick. Et je disais, voilà, nous sommes dans un monde où le religieux est malade. Tout ce qui se passe avec l'islamisme montre qu'il y a quelque chose de très malade à l'intérieur du religieux. Et puis le christianisme est malade aussi. Et il faut retrouver le génie de tout ça. Et le génie de tout ça, c'est de retrouver la nouveauté, l'originalité. Et donc là, c'est intéressant, les philosophes, bon...
Quelle est originalité, nouveauté, il y a nouveauté, mais il y a originalité, donc il y a origine aussi. Hein.
Voilà.
Donc une nouvelle origine aussi.
C'est-à-dire,
dans les descentes et
l'origine, vous voyez, Karl Jaspers faisait la distinction entre l'origine et la source, et le commencement. Il dit, attention, l'origine, ce n'est pas le commencement. L'origine, c'est le climat spirituel dans lequel on est. Ce n'est pas le commencement au niveau matériel. Alors, qu'est-ce qui se passe avec quelle peut être la pensée intelligente ? C'est celle qui sort des problèmes d'autorité. C'est-à-dire, on ne sort pas en Occident de la lutte entre le pape et l'empereur,
non,
qui a traversé tout le Moyen-Âge et l'histoire occidentale a été marquée...
Qui scande la chrétienté. Hein.
Qui a été marquée par l'opposition entre le pape et l'empereur, entre la religion et le politique. Dans un premier temps, premier round, l'Église l'emporte sur le politique et ça se termine avec cette catastrophe qu'est l'Inquisition, où bien sûr l'Église a le pouvoir, mais ça, c'est une drame. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe ? L'inverse,
ben oui, ouais.
C'est-à-dire les prêtres sont guillotinés lors de la Révolution française et c'est le politique, la laïcité, qui l'emporte sur le religieux. Et en Russie, des millions de croyants vont mourir dans les camps staliniens. Donc, et puis également sous le maoïsme. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Parce que tout le monde se bat au niveau de l'autorité. Tout le monde veut avoir le pouvoir. Tout le monde a peur de le perdre. Et donc, tout le monde veut mettre l'autre en prison pour conserver son pouvoir et ne pas le perdre. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on va penser le religieux autrement. Alors, comment penser le religieux autrement ? Il y a des années de cela, je participais à une réunion avec des philosophes chrétiens et on a dit « C'est quoi le Christ pour vous ?» Donc, il y a quelqu'un qui était protestant et qui a dit « Le Christ, pour moi, c'est celui qui est venu payer la dette. Ah. » Et moi, j'ai dit, mais ce n'est pas moi qui ai dit, c'est sorti, il est venu parler de la religion telle qu'on n'en avait jamais parlé. Et alors là, ça a stupéfait tout le monde. Et je me suis rendu compte que c'est ce que dit Nicodème quand il défend le Christ en disant « Ne touchez pas à cet homme, ne lui faites pas de mal, parce qu'il parle de la religion telle qu'on n'en a jamais parlé. » Alors là, c'est autre chose, parce que je dis, on prend tout le monde de court, on dit « Écoutez, on ne va pas discuter entre le religieux et le politique pour savoir qui doit l'emporter sur qui doit avoir l'autorité. Est-ce que c'est le pape qui doit avoir l'autorité sur l'empereur ? Est-ce que c'est l'empereur qui doit avoir l'autorité sur le pape ? Avant de discuter, on va revenir sur le religieux et on va penser quoi ? Que c'est radicalement nouveau. Donc, alors, comment penser le radicalement nouveau ? Ben, je crois qu'il faut le penser avec la pensée de Denis l'Aréopagite. C'est-à-dire la pensée de la théologie négative. Et qu'est-ce qui caractérise la pensée de la théologie négative ? Quand on ne connaît pas la théologie négative, on dit des banalités à son sujet et on dit, voilà, la théologie cataphatique ou positive dit ce que Dieu est et elle dit ce que Dieu n'est pas. Pas du tout. C'est pas du tout ça. La théologie négative est une théologie mystique qui est bien résumée, cette parole de Denis l'Aréopagite, qui dit « Dieu est tellement vivant que c'est peu dire qu'il est vivant ». Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le véritable principe de la théologie négative, c'est ce que le monde médiéval a appelé le principe d'éminence. C'est-à-dire que Dieu est éminemment Dieu. Et ça veut dire qu'il est Dieu parce qu'il est plus que Dieu. Et donc, il est plus que tout et plus que...
Dieu au-delà de Dieu. Oui.
Voilà, Dieu au-delà de Dieu, l'homme au-delà de l'homme, tout est au-delà. Ça donne la pensée antinomique. Et la pensée antinomique est une manière de parler de la croix, c'est-à-dire de la rencontre entre le vertical et l'horizontal, le divin et l'humain, avec la réalité, c'est, et c'est en même temps plus que. Donc, c'est les deux en même temps. En même temps, c'est là, ici, mais c'est pas là parce que c'est plus que. Et donc, le fait qu'il y ait coïncidence entre les deux fait qu'à un moment, on rencontre cette déflagration dont je parlais, la pensée quantique, et on découvre le Christ à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, on commence à faire une expérience de pensée. On commence à faire une expérience de pensée, c'est-à-dire que tout va bien plus loin qu'on ne le pense. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? Bien, c'est ce que fait Annick de Souzenel. Et comment elle s'y prend ? Elle part de l'évangile et elle met en relation avec l'hébreu. Et ce qui se passe entre l'hébreu et la parole française de l'évangile, c'est que la même parole devient autre en étant même. C'est-à-dire, elle devient plus qu'une parole en étant une parole. Et Annick, finalement, applique la théologie négative en faisant une synthèse entre l'hébreu et, d'autre part, la langue française. Et c'est une réponse à un de mes amis qui disait « Je viens de lire Annick de Souzenel, il faut arrêter de lire Annick de Souzenel qui nous empêche de lire Les Pères du désert. » Et je lui ai répondu immédiatement, je lui ai dit « Tu sais pas ce que tu dis, elle a fait plus de convertis à l'orthodoxie que toi et moi. » Et elle a permis, pourquoi ? Et peut-être que, vous voyez, je ne le savais pas avant de rentrer dans ce studio, oui. Mais finalement, le rapport qu'il y a entre l'hébreu et d'autre part la langue française, oui, et la théologie négative ou mystique, c'est la même chose. Voilà. Elle a pris appui sur l'hébreu pour mieux vivre la théologie négative et découvrir de l'intérieur même du langage bien, ce langage qui est au-delà tout en étant ici. Voilà. Et donc, alors, est-ce que c'est philosophique ? Oui. Qui est-ce qui a fait cette philosophie ? Platon, dans la dialectique du banquet, où Platon dit « quand on aime, eh bien, parce qu'on aime, on fait plus qu'aimer ». Donc, qu'est-ce que dit Platon dans la magnifique dialectique du banquet ?
Quand on aime, on fait plus qu'aimer.
Mais, c'est-à-dire, quand on aime un
Quand on aime un corps. Mais comme on aime un corps, on aime tous les corps. Mais comme on aime tous les corps, on aime tous les âmes. Et comme on aime les âmes, on aime les discours. Et comme on aime les discours, on aime les pensées. Et quand on aime les pensées, on aime Dieu. C'est-à-dire, quand on aime, on fait plus qu'aimer un corps. Et parce qu'on aime un corps, on va au-delà du corps. Génial. Platon, magnifique, c'est la dialectique absolue. On n'a jamais rien fait. C'est-à-dire, toute la dialectique des pères de l'Église et du néoplatonisme vient de là. Alors, bien évidemment, ensuite, vous avez le néoplatonisme. Vous avez Plotin qui pense exactement dans les termes de ce paradoxe. Ouais. Après, vous avez la grande tradition de la doctignorance avec Nicolas de Cuse. Et puis, vous avez Pascal. Et puis, vous avez aujourd'hui mais les grands penseurs des paradoxes. Par exemple, Stéphane Loupasco, où tout d'un coup, vous avez des penseurs de l'antinomie, vous voyez, et qui sont... Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est Pascal. Quand oui. Pascal dit la vraie philosophie se moque de la philosophie, oui. La vraie morale se moque de la morale, c'est-à-dire la morale est plus que la morale parce que celui qui la vit, il est la morale. Bien, si vous voulez, là, on est en... Alors là, je suis, si vous voulez, si je disais, si Annick était là, je peux vous dire, elle est là, dans le studio avec nous, et elle boit du petit lait.
C'est sûr.
Parce que là, elle est très contente. Là, elle est très contente en disant, effectivement, c'est ça que j'ai voulu dire. C'est-à-dire, j'ai voulu, à un moment, rentrer dans l'expérience de la parole pour aller vers plus que la parole. Et aller plus que la parole, c'est découvrir mon corps, c'est acquérir un corps. Et ça, c'est le côté génial qu'elle a eu de la relation qu'il peut y avoir entre la pensée et le corps.
Oui.
Et en disant, quand la pensée est véritablement une pensée, elle prend corps, et quand elle prend corps, elle fait vivre en nous le corps ressuscité. Alors, il faut bien comprendre une chose.
Ça va bien au-delà de la somatisation,
oui,
et
oui, oui.
Des quand mots et des mots.
Et quand Annick faisait cours à Sainte-Croix, parfois elle faisait cours pendant 4 jours, elle ne dormait pas de la nuit, parce qu'elle était, mais... Elle avait reçu l'esprit et elle était tout son corps
à
un moment
oui.
D'une énergie céleste, vous comprenez. Et ça, c'est des choses que j'ai pu vivre, c'est-à-dire quand
toutes
vous...
les cellules de son corps,
mais toutes les cellules, voilà, toutes les cellules, tous les atomes, il y avait une danse des atomes et il y avait chez Annick quelque chose de très érotique, de très incarné, de très respectueux des femmes. Et les femmes se reconnaissent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un sens du corps, parce qu'elles ont un sens des cellules, parce qu'elles ont un sens atomique, parce qu'elles comprennent très bien cette espèce de ce qu'on peut appeler de jubilation, de jouissance, vous voyez. Alors, là, on a quelque chose que recherche la pensée contemporaine, mais qui est, parfois, il est allé à l'autre côté. C'est-à-dire, on recherche la pensée qui passe par le corps, qui est une vraie pensée, qui serait un véritable matérialisme créateur. Qui est-ce qui a essayé de penser ça ? Michel Henry. Michel Henry a essayé de penser un matérialisme chrétien en ayant eu parfaitement l'idée que la transcendance, ça se passe dans l'incarnation. Mais pour aller vers Annick, l'incarnation, ça se passe dans le corps inconnu qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire ce que Olivier Clément voulait appeler le corps de gloire, et non pas le corps de mort. Et le corps de gloire, à l'intérieur de nous, on peut le vivre. Il suffit de faire une expérience sousnélienne de la parole inspirée par le verbe hébraïque. Voyez. Donc voilà, pour tout dire, là, est-ce que c'est philosophique ? Mais bien évidemment que c'est philosophique. Et que demain, et que déjà, tout philosophe véritable fonctionne comme ça. Qu'est-ce qui m'a frappé chez les philosophes ? J'ai jamais vu des gens aussi intenses. Un vrai cours de philosophie, c'est incroyable. Vous vous dites, ce type est fou. Ce type, qu'est-ce qu'il fait ? J'avais vu un vrai cours d'astronomie par quelqu'un qui s'appelle Luminé. C'est drôle quand on s'appelle Luminé et qu'on fait de l'astrophysique. Qu'est-ce qu'il faisait ? Eh bien, ce monsieur sautait sur sa table, descendait sur l'estrade. Il était tellement transporté par ce qu'il voyait qu'il ne pouvait pas le faire autrement que d'une manière sousnélienne, en dansant. Voilà, vous comprenez. Et donc, c'est ça qui se passe. Et tous les philosophes ont été sousnéliens. C'est-à-dire qu'à un moment, ils vous parlent de Descartes, ils vous parlent de tout le monde, et à un moment, ils jubilent. Je relisais l'autre jour la fin de La connaissance philosophique d'Hubert Grenier, et il a cette phrase qui m'avait échappé quand je l'avais lue pour la première fois. Il dit « Tous les philosophes ont théorisé la vie divine, tous les philosophes. » Alors, c'est l'objet d'un livre que vous pouvez citer, mais que j'ai écrit,
mais allez-y.
Et qui s'appelle « Dieu veut des dieux ». la vie divine.
Dieu veut des dieux.
Dieu veut des dieux, la vie divine. Et c'est un livre que...
Quel éditeur ?
MAM. Et donc, je suis tombé... MAM, très gentiment, voulait que j'écrive pour eux, et j'ai écrit ce livre. Et je tombe sur cette phrase de Novalis, je me dis non, je n'ose pas le dire. Et l'éditeur, qui a eu un courage que je n'avais pas, a dit je prends tout de suite cette phrase. Et ensuite, j'avais marqué La vie divine, qui est le titre d'un ouvrage de Sri Aurobindo qui avait déjà été pris. N'est-ce pas ? Mais la vie divine, c'est quoi ?
Oui.
C'est la philosophie. J'aime bien citer cette parole d'Épictète qui dit si dans un repas, tu peux éviter de te précipiter sur la nourriture, ouais, tu seras invité à la table des dieux. Mais
pas ça,
si en vrai. Général, dans la vie, tu peux t'abstenir de manger,
ouais,
tu ne seras pas invité à la table de Dieu, tu seras comme l'un d'entre eux.
L'un d'entre eux.
Et
tiens, le banquet des dieux, ça me
et fait Épictète de rajouter, ouais, les Grecs anciens vénéraient deux penseurs comme des êtres divins, Héraclite et Diogène.
Ouais. Et Diogène.
Et Diogène. Et Diogène. Et donc, et là, on découvre quoi ? On découvre les racines de la pensée. On découvre la théorie divine. Et Annick, ben, elle a théorisé la vie divine. Et elle a dit, mais dans le soufisme, on vit la vie divine. Dans le Zohar, on vit la vie divine. Dans toutes les grandes spiritualités. Ensuite, elle se développe. Et puis, bien évidemment, c'est le cœur de la pensée orthodoxe. C'est-à-dire ce qu'on appelle la théosis, hein, la déification, pas la divinisation, la déification.
Oui, c'est pas pareil.
Donc vous voyez, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que on est là, on est peut-être enfin dans la philosophie. Hein, enfin dans la philosophie, il y a beaucoup de gens qui me disent non, Vergely, c'est pas de la philosophie, c'est du religieux, c'est n'importe quoi. Et tout. Il est évident que pour le laïcard pur et dur, je transgresse tout.
Ah oui, oui, c'est sûr.
Ah oui, ça, je bouge. Mais c'est très bien que la laïcité existe pour ne pas être dans l'ibriété intellectuelle, vous voyez. Il faut être dans l'enthousiasme, mais il faut toujours respecter la rigueur. Ça, je suis entièrement d'accord.
Ouais, pas l'imagination, l'imaginaire. L'imaginal, tiens,
voilà,
l'imaginal.
L'imaginal, mais si vous voulez, pas les fantasmes et le délire personnel. Donc, Annick de Souzenel et la philosophie, bien sûr. Mais sachant quoi ? Que nous allons vers le monde de demain. Jean Kowalewski, Annick de Souzenel, mais un certain nombre d'autres penseurs sont en train de préparer ce qui est en train de se faire. C'est une redécouverte phénoménale des sources christiques, non seulement de la pensée occidentale, mais de la pensée mondiale.
Oui.
Et là, on va rentrer avec des territoires de pensée, de découverte dont nous n'avons pas imagination.
Et comment ça s'articule, Bertrand Vergely, dans la dernière partie de cette émission, avec le collectif ? Parce qu'on voit bien le développement individuel. Annick de Souzenel, on pourrait terminer par cela, parce que dans ce type d'émission, elle disait « nous allons vers une Pâque des nations ».
Oui.
Qu'est-ce qu'elle entendait par là ?
Alors, c'est quelque chose que vous pouvez dire par intuition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? On me dit, comment ça peut devenir collectif ? Ce qui est formidable, c'est que vous n'en savez rien. Mais,
non, oui, c'est oui.
Personne ne sait comment on passe de l'individu au collectif. Ouais. Mais tout le monde peut constater une chose. C'est qu'on fait le collectif autour d'un individu qui est une signature et un visage. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand il y a une signature et un visage, tout le monde se reconnaît dans un individu. Qui n'est pas un individu, qui est une signature et un
visage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une signature et un visage ?
Bien, c'est un nom, et un nom avec un visage, et un visage et un nom. Et le nom et le visage sont la manière transcendante que nous pouvons avoir de vivre, c'est-à-dire nous ne sommes pas simplement un paquet de chair, nous sommes un paquet de chair qui a un nom. Et donc, la chair est au service de quelque chose qui n'est pas charnel, et c'est ce qui lui donne tout son sens. Donc c'est l'importance fondamentale du nom dans le judaïsme.
Oui.
Et à un moment, non seulement le nom a...
nous sommes des noms dans le nom, hein.
Voilà.
Il disait qu'elle...
Voilà.
Et
le nom transcende la matérialité, et avec le visage, il y revient. Et qu'est-ce qu'il y a dans le visage ? C'est inouï, c'est le transcendant à l'intérieur de l'Ibanan. C'est-à-dire, quand vous voyez un visage, vous êtes révélé en tant que personne,
Et alors là, il se passe la chose la plus inouïe qui se passe de votre vie, c'est-à-dire vous vous sentez enfin exister. Vous vous sentez vivant, vous sentez en vous la vie éternelle, vous sentez en vous l'éternellement vivant à travers les processions célestes qui vont de la terre vers le ciel grâce au nom et du ciel vers la terre grâce au visage. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? On vit l'expérience du nom et du visage. Et l'expérience du nom et du visage, bien, c'est ce qui va permettre de faire le collectif. C'est pas la société qui nous donne un nom et un visage.
Non.
C'est le nom et le visage qui créent la société.
Ouais.
Et pourquoi nous sommes en société ? Alors, c'est assez bien décrit par Rousseau quand il dit que dans le contrat social, tout le monde obéissant à tout le monde, personne n'obéit à personne.
Mmh.
Donc, il y a une coïncidence fulgurante entre le fait que tout le monde a un nom et un visage. Et ce nom et, ce visage est à la fois le visage du tout et le visage de l'individu. Donc, par exemple, regardez, vous avez le Christ avec le nom et le visage. Et autour de Christ, vous avez toute la société. Et nous formons une collectivité dans le monde occidental parce qu'il y a le visage. Et alors, ce n'est pas l'homme, c'est l'homme comme nom et comme visage. On pourrait dire le Christ est le fils de l'homme, le Christ est le fils du nom et du visage. Voilà.
C'est les dernières découvertes scientifiques autour du linceul de Turin vont totalement dans le sens de ce que vous dites.
Ben, c'est-à-dire le linceul de Turin est un un témoignage, vous voyez, de cette importance.
Mais oui, mais justement,
et le Christ avait un visage.
Que ce soit ce témoignage-là,
oui,
justement.
Oui, oui, et c'est important que dans les choses les plus concrètes et les plus matérielles se trouvent les choses les plus divines. Alors, qu'est-ce que nous vivons ? Nous vivons des choses passionnantes. Nous vivons des choses passionnantes que Annick a senties. C'est-à-dire, elle a bien senti qu'on était à la fin d'un cycle.
Oui.
À la fin de quelque chose, il y a un religieux dont on ne veut plus entendre parler parce qu'on a soif de vie et on a soif du vrai religieux et on est en attente du véritable religieux. Ce religieux existe, mais c'est le religieux totalement vécu et génial. Alors, il a existé à plusieurs moments dans l'histoire, mais quand le Christ intervient, il intervient parce qu'il correspond au religieux génial que tout le monde attend, que tout le monde espère en disant « mais on n'attend qu'une chose, ce génie, pour faire enfin société ». Et ce religieux, il existe. Et ce religieux, nous avons déjà commencé à le découvrir grâce à Annick de Souzenel, grâce à des êtres géniaux comme elle qui sont en train de porter la parole et qui portent l'avenir. Hein.
Le Christ, il... C'est l'enseignement finalement des évangiles, c'est uniquement, et ça en effet on ne l'avait jamais eu dans aucune religion, c'est l'échange interpersonnel, hein, c'est aime ton prochain, aime ton ennemi, enfin aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de tout ton corps, c'est pas seulement l'idée tout de suite de l'amour, mais c'est le fait que c'est le rapport à l'autre.
Alors, le rapport à l'autre à l'intérieur des évangiles, là, il faut faire attention, c'est-à-dire que jamais on n'a parlé de la société comme ça. Et la société n'est pas formée sur, en général, la façon dont elle se forme, c'est-à-dire...
D'ailleurs, Rousseau disait, il y a une société de chrétiens, ça n'existe pas, ça ne pourrait pas exister.
La coutume. C'est-à-dire, on est devant des modèles dominants qui se créent sur le modèle de la mode.
Ouais.
Vous voyez ? Et qu'est-ce que c'est que le modèle de la mode ? C'est un mode perverti de la société véritable, dans lequel on s'identifie à une image séduisante qui fascine, et tout en créant en même temps des phénomènes de terreur collective, c'est-à-dire j'ai peur de ne pas participer à cette fascination collective, donc je me laisse fasciner parce que j'ai peur de ne pas participer, je me laisse fasciner. Là, c'est autre chose. On est dans la réalité. On n'est pas dans la peur, on n'est pas dans l'imagination. On est devant ce qu'on attend à l'intérieur de nous-mêmes.
Hein, nous attendons tous un nom, un visage, nous attendons tous une incarnation. Nous attendons tous à être ce qui est. Or, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand une personne apparaît véritablement, eh bien, le collectif apparaît en même temps. Ce n'est pas le collectif qui crée la personne, ce n'est pas la personne qui crée le collectif, c'est l'apparition simultanée des deux. Exactement comme dans la propagation dans laquelle, dont je parlais. Vous voyez? Et donc, voilà. Alors, je pense que si vous voulez l'expérience, souvenez-vous que lorsque le Christ dit « aimez vos ennemis », c'est une image.
Oui.
Il y a une série de choses et il dit aux Juifs, écoutez, vous dites qu'il faut aimer ses amis et détester ses ennemis. Mmh. Et moi, je dis, non seulement vous aimez vos amis, mais vous aimez vos ennemis. Donc, quelqu'un veut t'obliger à faire une verste avec lui, fais-en deux. Mmh. Voilà, bien. Donc, ça veut dire, va plus loin, hein, derrière l'amour, c'est-à-dire, n'aime pas simplement, banalement, les gens qui t'aiment. Voilà,
oui.
Aime même les gens qui ne t'aiment pas. Voilà, c'est ça que veut dire. Donc, c'est ça. Et par là même, on donne à l'amour quelque chose de génial. C'est-à-dire, et un amour génial, et un amour qui ne soit pas un amour banal.
Et un amour qui va au-delà de l'amour, hein, c'est bien.
Voilà, et qui donne, et qui invite l'énergie de l'au-delà. Parce que c'est ça l'aimer. Aimer, c'est apporter et vivre avec l'autre l'énergie de l'au-delà, de l'inattendu, de la création, qui embrasse tout. Voilà. Là on y est. Là, on est dans un véritable amour, c'est-à-dire un amour qui devient une expérience passionnante que l'on vit tous ensemble.
Ouais. Il reste quelques 5 minutes pour conclure Bertrand Vergely sur cet hommage à Nick de Souzenel.
Mais la seule manière de conclure, c'est de ne pas conclure.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ce qui se passe avec Annick n'est pas de l'ordre de la conclusion.
Oui.
C'est de l'ordre de l'ouverture.
Oui.
Annick, d'abord, j'ai eu un message comme ça d'elle qui me disait « Tu leur diras que je vais être encore plus présente maintenant que je ne l'étais. »
Mais c'est le cas.
Et donc Annick est présente, invisiblement présente. Les choses ne font que commencer parce qu'on est dans quelque chose d'inouï. Alors, je ne sais pas où elle est, ça ne me préoccupe pas du tout.
En tout cas, c'est une relation plus subtile qu'elle a.
Elle n'est pas là et elle est terriblement là. Ouais. Elle est merveilleusement là je la sens extrêmement présente au cœur de notre entretien, au cœur de tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire une chose, c'est ce que j'ai dit dans les hommages, merci. J'ai dit l'autre jour à Saint-Irénée 4 merci. D'abord, gloire à Dieu de nous avoir offert Annick, qui est venue illuminer nos existences. Et puis, merci pour les 3 choses qu'elle a apportées. L'intelligence, le corps et les mots. Elle a rendu le religieux intelligent. Elle a rendu le religieux incarné. Et elle a fait parler, chanter cette incarnation et cette intelligence. Et donc, merci de nous parler comme ça, parce que on n'a qu'une envie, après l'avoir lu, c'est de foncer dans une bibliothèque pour s'acheter ses livres, étudier, apprendre, commencer à vivre. Et on a envie d'étudier, on a soif de connaissances. Et elle nous en donne une envie terrible, vous voyez. Voilà. Et je crois que c'est avoir une grande gratitude. Comte Sponville, un jour, a dit quelque chose que je trouve de très beau. Il dit, on commence à en vouloir à la vie de nous priver des êtres que l'on aimait. Et puis après, on remercie la vie de nous les avoir fait rencontrer. Moi, je trouve que c'est magnifique ce qu'il dit, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je n'ai jamais été privé de quoi que ce soit en ce qui concerne Annick, et sa mort ne me prive en rien.
Ah oui.
Mais je remercie infiniment la vie de m'avoir donné la chance de la rencontrer.
Mmh. Je pense que ça s'adresse à tous ceux qui l'ont aimé.
Et puis je pense pour tous ceux qui vont la lire, continuer de la lire.
Oui.
Et puis, il y a quelque chose de merveilleux, c'est tous les groupes qui se sont créés autour de cette parole et qui, à travers toute la France, étudient depuis 10 ans la pensée d'Annick et toute sa vie au-delà de l'Institut d'anthropologie. Et donc, c'est formidable. On voit ce que donne la parole quand elle est pensée, vécue de l'intérieur. C'est absolument génial.
Elle a ouvert
les vraies pensées, c'est-à-dire des écoles de pensée. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? C'est ce qu'on appelle une église. Mais qu'est-ce que c'est qu'une église? C'est une assemblée autour de la parole. Et qu'est-ce que c'est qu'une assemblée autour de la parole? C'est ce qu'a créé Annick. Annick a créé une assemblée autour de la parole dont elle a été la servante, mais qui parle dans le cœur de chacun. Et pour lui permettre d'aller vers son chemin. Voilà. Lorsque ma mère est morte, Annick m'avait écrit une lettre et elle me dit « Ta mère... est morte pour aller vers son Dieu intérieur. » J'avais trouvé ça magnifique et j'ai envie de dire, il faut que chacun d'entre nous aille vers son Dieu intérieur. Et donc, Annick est morte pour que nous allions chacun vers notre Dieu intérieur et je crois qu'elle souhaiterait à tout le monde bonne route.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup Bertrand Vergely. Et depuis le temps que je pose la question à des philosophes, à des religieux, à des anthropologues. Qu'est-ce que l'Église? Vous m'avez donné la définition que j'attendais tant.
Voilà, assemblée autour de la parole qui devient un rassemblement à l'intérieur du parlant qui vit en toi. Et tout d'un coup, tu es l'Église. Et comme tu es l'Église, eh bien, il y a l'Église qui se fait autour de toi et tout le monde s'assemble autour de toi.
Alors, on pourra le méditer. Merci beaucoup Bertrand Vergely. Je rappelle votre dernier ouvrage, Main basse, sur la pensée, les grandes arnaques. On est tout à fait à l'inverse avec Annick de Souzenel. C'est les éditions Salvator.
Oui,
merci.
La pensée retrouvée.
La pensée retrouvée. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre invitation.
Merci de tout ce partage, de toute cette générosité. Merci Bertrand Vergely. Merci chers auditeurs de votre écoute. On se retrouve dans 4 semaines pour le prochain Libre Journal de la Résistance française sur Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal de la Résistance française, dirigé par Nicolas Stocker, émission préenregistrée le 22 septembre 2024 et diffusée pour la première fois le mercredi 25 septembre 2024 de 18h à 21h et réalisée par Jean-Edouard. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce Libre Journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.